sang d'Europe, Juliette Garbrand.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, technologic, technologic.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Un ordinateur pour chaque élève dans les écoles et les lycées, sur une grande partie de la planète et sans même parler des pays en guerre, c'est un objectif qui reste très difficile à atteindre. Mais en Europe, certains pays qui avaient tout misé sur le numérique sont en train de faire marche arrière. La Suède, par exemple, a remis les manuels scolaires sur le bureau des écoliers dès l'an dernier. Les scientifiques et les enseignants constataient que la généralisation des ordinateurs dans les salles de classe avait entraîné une baisse de niveau. Reportage auprès des premiers concernés avec notre correspondante à Stockholm, Ottilia Ferret.
Quand on demande aux plus jeunes s'ils préfèrent étudier sur une tablette ou avec un livre, la réponse est plutôt unanime.
Avec une tablette, c'est plus rigolo.
Oui, mais voilà, étudier uniquement sur un ordinateur, ça n'a pas eu que du bon, comme l'admettent volontiers Benjamin et William. Les deux collégiens viennent tout juste de sortir de cours avec, sous le bras, un ordinateur. Pas de sac à dos, pas de livre, pas de cahier, ni stylo.
Depuis la sixième, on faisait tout numériquement. On lisait en digital, on faisait nos devoirs sur une tablette, vraiment tout, les examens aussi.
C'est hyper facile de commencer à jouer aux jeux vidéo au lieu de bosser. Il n'y a qu'un clic à faire. J'avoue que j'ai même oublié comment s'écrivaient certains mots. On a pris l'habitude que l'ordinateur corrige automatiquement pour nous.
Et c'est là tout le problème. La dernière enquête du programme international pour le suivi des acquis des élèves montre que les jeunes Suédois ont perdu beaucoup de connaissances scolaires, notamment en mathématiques et en compréhension de l'écrit. Le pourcentage d'enfants de 10 ans éprouvant des difficultés à lire ou à écrire a bondi de 12 à 19% en 5 ans. Les neurologues et pédiatres pointent directement du doigt un usage excessif et trop précoce du digital. Et pour cause, depuis 10 ans, ordinateurs, tablettes numériques et autres écrans régnaient en maître dans les écoles suédoises. Pour la maîtresse Josefine Sjöström, ils ont indéniablement leur part de responsabilité.
Leurs connaissances factuelles sont très volatiles. Ils se fient à Google, ils ont perdu toute notion d'effort. Le niveau s'est détérioré, surtout en lecture, mais aussi en vocabulaire et même à l'oral. On remarque aussi qu'ils sont beaucoup plus fatigués lorsqu'ils travaillent devant l'ordinateur. Aujourd'hui, ils sont exposés aux écrans et aux ordinateurs partout. Je pense que l'école devrait être un lieu sans numérique ou alors qu'il soit réservé à des usages bien particuliers. On est allé trop vite en Suède. Même en maternelle, on parlait de donner des tablettes aux enfants. On aurait dû se préoccuper plutôt des effets à long terme.
Face à un niveau en constante baisse, le gouvernement a donc décidé de faire machine arrière. En 2023, il a investi 60 millions d'euros pour que chaque élève ait chacun son manuel scolaire.
Je sens qu'on est de retour sur le bon chemin et je suis contente qu'on mise de nouveau sur les manuels et les livres.
Un retour à des méthodes plus traditionnelles dont les élèves de Josefine, en 6e, discutent régulièrement entre eux.
Pour la science ou l'histoire, c'est plutôt des livres. En maths, on a aussi un livre, mais si on a terminé l'exercice, on peut bosser sur l'ordinateur.
C'est plus facile d'écrire sur l'ordi si on doit modifier son texte. Sur papier, il faut faire des ratures ou mettre du blanc. Donc pour écrire, l'ordi, on trouve ça mieux. Mais pour lire, c'est mieux avec un livre, ça fatigue moins les yeux. Mais on se souvient mieux de ce qu'on apprend si on l'écrit sur papier, je trouve.
Moi, sur l'ordi, je suis plus facilement déconcentré.
Ouais, moi aussi, pareil. Mais je pense que c'est bien d'avoir les deux, parce qu'il faut qu'on puisse se servir du numérique pour l'avenir, mais il faut aussi qu'on sache écrire à la main. Et on remarque carrément la différence. Avant, on utilisait beaucoup plus l'ordi qu'aujourd'hui.
Il est 15h, la cloche sonne, et les 6e se dirigent maintenant vers l'atelier manuel. Un cours qu'ils apprécient tout particulièrement. Un lieu aussi où on ne trouve pas la moindre trace de numérique.
On fait des porte-manteaux. Moi, je le fais en forme d'os de chien et je vais l'accrocher chez moi dans l'entrée.
Dans une société ultra digitalisée comme en Suède, Jans, leur professeur de charpenterie, estime qu'il est primordial de continuer à apprendre aux plus jeunes des choses pratiques et techniques, comme savoir manier le bois.
Ça leur apprend aussi la tolérance et la patience. Ici, ils essayent, puis ils essayent encore jusqu'à réellement comprendre comment ça fonctionne. Ça les pousse à trouver des solutions. Ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils peuvent faire quelque chose de leurs mains et tout seuls, contrairement aux choses toutes faites comme les contenus numériques ou les jeux vidéo. Et ça, c'est important dans la vie.
Alors il n'a jamais été question que le numérique disparaisse totalement de l'école. Il apprend simplement à cohabiter davantage avec les livres. Cette transition se fera sur plusieurs années. Mais en attendant, les élèves sont contents de ne plus être assimilés à la génération de cobayes numériques.
En Espagne, ce sont les familles qui se mobilisent contre le tout numérique. Sous l'impulsion du mouvement Escuela Off, 9000 familles et 300 établissements scolaires sont revenus au papier. Alors que le gouvernement avait investi massivement pour équiper les écoles après la pandémie, la transition n'est pas facile partout. Diane Cambon.
Revenir au papier au crayon dans les salles de classe, favoriser l'échange oral et la lecture sans papier, ce sont les grands principes défendus par la plateforme Escuela Off. Un mouvement qui cherche à convaincre parents et professeurs de diminuer le temps passé des ados devant un écran. Tout un défi dans un pays où 31% des jeunes Espagnols passent en moyenne 5 heures par jour devant leur écran d'ordi ou de téléphone. À l'origine du projet, trois parents de Madrid ont monté cette association en réaction aux mesures prises pour numériser l'apprentissage scolaire après la pandémie du Covid. À cette époque, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez reçoit des millions d'euros versés par les fonds européens Next Generation et décide d'en faire profiter le système éducatif pour pallier les inégalités sociales entre les familles. 800 000 tablettes sont distribuées dans 17 000 centres scolaires.
Les tableaux noirs sont remplacés par des écrans tactiles et les livres disparaissent au profit des écrans, Diane, ce qui oblige les parents à se connecter le soir pour faire les devoirs en ligne.
C'est à ce moment-là que la grogne de certains parents contre le tout numérique fait boule de neige et que surgit le mouvement Escuela Off. 4 ans plus tard, quelques 9000 familles réparties dans tout le pays font pression auprès des écoles pour éliminer ou réduire l'usage du numérique en mettant en avant les dernières études sur les effets négatifs dans l'apprentissage scolaire. Mais en Espagne, où l'éducation est une compétence décentralisée, toutes les régions ne réagissent pas de la même façon. Les régions de Murcie et Madrid sont les seules à avoir annoncé pour la rentrée 2025 de retirer les écrans dans le primaire jusqu'à l'âge de 10 ans. Pour beaucoup de parents, il ne reste qu'une seule solution pour éviter l'exposition au numérique, recourir aux écoles privées UP. Elles sont nombreuses à vanter les vertus du papier, un plus que malheureusement, seules les familles les plus aisées peuvent offrir à leurs enfants.
Diane Cambon, correspondante à Madrid, merci. Conserver une trace des événements en Ukraine, transmettre l'histoire et la partager en dehors de ses frontières, c'est l'objectif du Centre Index, Institut pour la documentation et l'échange, un organisme culturel qui vient d'ouvrir ses portes à Lviv dans l'ouest du pays avec la coopération de l'Institut pour les sciences humaines de Vienne. Malgré la guerre et à cause de la guerre, Index veut être un lieu de réflexion sur le passé, le présent, mais aussi sur l'avenir de l'Ukraine. Emmanuel Chaz a assisté il y a quelques semaines à son inauguration officielle. Reportage.
Sous les applaudissements, Sacha Dovjouk, universitaire et directrice du Centre culturel et de recherche Index, accueille quelques centaines de personnes venues à Lviv dans le plus grand secret à l'occasion de l'inauguration officielle du Centre Index. Guerre oblige, les personnalités intellectuelles ukrainiennes se déplacent avec précaution et ne se réunissent que rarement en public et en nombre comme aujourd'hui.
Nous en sommes à la 3e année de guerre totale et à la 11e année de guerre russe contre l'Ukraine. Cela signifie qu'il est temps d'aller au-delà des projets faits dans l'urgence et de réfléchir au renforcement de nos institutions. Génération après génération, nous, Ukrainiens, sommes obligés de recommencer dans un contexte d'effacement de la tradition institutionnelle et de lacunes héritées du passé. Nous surmontons ces écarts grâce à la créativité et à la résilience.
Dans ce centre, des chercheurs, artistes et journalistes auront la possibilité via des bourses de développer leurs projets liés aux témoignages et aux archives sur la guerre. Des conférences et des expositions seront organisées avec ceux qui la racontent, la vivent et travaillent dessus. L'historien Timothy Snyder s'adresse en ukrainien à la foule pour souligner l'importance de ce moment.
Pendant longtemps, on ne s'est pas souvenu de l'Holodomor. Il n'y a pas eu de conférences, de documentation dessus. Même pendant l'Holodomor, à l'étranger, des personnes comme Lena Rudnitska, qui tentaient de documenter et de relayer des informations, ont été ignorées.
C'est pour ne pas répéter ces angles morts dans l'historiographie ukrainienne que le Centre Index a vu le jour. Si l'Holodomor, l'une des grandes famines ukrainiennes orchestrées par Staline, a désormais sa place dans la recherche, Index compte donner la même visibilité à la guerre en Ukraine en gravant les événements historiques qui se jouent pour les générations futures, comme nous l'explique Sacha Dovzhuk.
Cette nouvelle institution soutiendra l'avant-garde culturelle et intellectuelle ukrainienne et fera tout pour que les témoignages du moment dans lequel nous nous trouvons, la guerre génocidaire de la Russie contre l'Ukraine, perdurent et soient accessibles non seulement à nous, mais aussi aux générations futures. Nous le faisons pour la justice, au sens le plus large du terme, car la justice n'a pas seulement une dimension juridique, elle comprend aussi une dimension historique et épistémologique. C'est la façon dont notre histoire sera finalement interprétée par les peuples d'Ukraine et au-delà de son territoire et de ses frontières, dans un an, 10 et même 50 ans.
L'un des parrains de la soirée d'inauguration n'est autre que le poète, écrivain et musicien originaire de Kharkiv, Serhiy Jadan. Il y a quelques mois, il s'est enrôlé dans l'armée ukrainienne et il est venu parler de l'importance du témoignage pour la postérité, même s'il confie la difficulté de la tâche lorsque les événements touchent d'aussi près ceux qui les décrivent.
Lorsque la guerre à grande échelle a commencé, j'ai essayé d'écrire un roman sur Kharkiv pendant l'été 2022, sur les premiers jours de la grande offensive. Et j'ai compris qu'il me manquait quelque chose, à écrire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je n'arrivais même pas à respirer normalement. Il est très difficile de parler de ces choses qui nous entourent actuellement, qui nous arrivent dans une perspective au long cours, une perspective de longue haleine.
Ce soir-là, à Lviv, la guerre n'a pas retenti sous forme de missiles ou de drones, l'inauguration a pu se dérouler sans alerte aérienne. Un moment solennel et émouvant, car les personnes présentes ne font pas que décrire cette guerre, ils en sont les témoins et aussi les victimes.
Ave César, nous n'avons trouvé aucune trace de Quintus Cicéron.
Fasse les dieux qu'il ne soit rien arrivé à Claudius Valerius. Tout est trop silencieux. Qu'as-tu l'intention de faire ? Nous avancerons jusqu'à l'entrée de Gergovie. En avant !
Assiste-t-on à un retour des empires à travers le monde ? Russie, Turquie, Iran, mais aussi dans une toute autre mesure, nostalgie de la Grande Hongrie, voire nostalgie de l'Empire britannique chez les partisans du Brexit ? À cette question, le journaliste et auteur italien Aldo Cazzullo répond : nous sommes tous des héritiers de Rome, du Saint-Empire germanique à Napoléon jusqu'au cyberespace contemporain. Directeur adjoint du quotidien italien Corriere della Sera, Aldo Cazzullo vient de publier chez HarperCollins Rome, l'Empire infini. De passage à Paris, il nous entraîne sur les traces encore très présentes de cette histoire.
Rome n'est jamais tombée. Et Rome continue de vivre dans nos esprits, nos âmes, nos symboles, nos mots. Les mots de la politique, le langage du pouvoir est né à Rome. Peuple, liberté, justice, citoyen, roi, dictateur, empereur, président, communisme, socialisme, nationalisme, sénat sont des mots latins. Mais le mot que je préfère, c'est république. Res publica, la chose publique. C'est à Rome qu'est née l'idée que l'État appartient à tout le monde. L'État est de tous. L'État, c'est nous.
Aujourd'hui, on voit quand même des résurgences, des velléités d'empire un peu partout dans le monde. Ce n'est pas forcément une notion très positive.
Mais c'est normal. Chaque empereur de l'histoire a eu le sentiment d'être le nouveau César. Et chaque révolutionnaire a eu le sentiment d'être le nouveau Spartacus. Et chaque empire de l'histoire s'est présenté comme l'héritier des anciens romains. L'empire romain d'Orient, le Saint-Empire germanique de Charlemagne, Tsar et Kaiser sont des mots qui dérivent de César. Et pas par hasard, l'aigle, le symbole de la légion romaine, est aussi le symbole de l'Empire russe et de l'Empire allemand. On a eu l'Empire britannique. Napoléon s'est fait couronner, pas roi, mais empereur des Français. Moi, je trouve que l'Empire qui est plus semblable à l'Empire romain, c'est l'Empire américain. Et les Romains, quand ils battaient un ennemi, ils le transformaient dans un allié. Et les Américains ont fait le même avec les Italiens, les Japonais, les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi Rome pouvait perdre une bataille, mais gagner toujours la guerre. Il savait faire et penser la guerre. Le général romain n'était pas un général comme ceux de la Grande Guerre, gagner ou mourir. Il était un organisateur, un ingénieur, un stratège. Et la stratégie était, n'est pas importante, l'occupation des territoires. Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir qu'on exerce sur les âmes, sur les esprits et sur l'économie. C'est pour ça que je dis que les États-Unis d'Amérique sont le vrai moderne empire romain. Les autres, ce sont je ne crois pas. Et c'est plutôt le nationalisme qui revient en Angleterre, en Italie aussi. L'Italie, c'est le seul pays de l'Europe occidentale où le populisme de droite a gagné les élections. Mais ça n'a rien à voir avec l'Empire romain.
Vous parlez des États-Unis, vous citez Zuckerberg, Elon Musk comme quelque part un peu les nouveaux empereurs.
Quand Mark Zuckerberg a fait son voyage de noces à Rome, sa femme Priscilla, un homme romain, a écrit « Moi, je croyais d'être en trois, moi, Mark et Auguste, parce que Zuckerberg voulait être photographié, embrassé à chaque statue d'Auguste qu'il trouvait. Auguste, c'était le premier homme de l'histoire dont tout le monde connaissait le visage. Il avait fait représenter 2500 statues. Chaque ville de l'Empire devait avoir une statue d'Auguste, surtout les villes françaises qui ont pris le nom d'Auguste, Autun, Auch, Auxerre, plusieurs. » Et Zuckerberg a le sentiment d'être le nouveau Auguste parce qu'il est le chef d'un réseau social, d'une communauté diffusée partout. Et en effet, il termine ses réunions de travail en créant en latin « Dominium ». Il a appelé ses filles Augusta, Maxima, Aurelia avec des noms romains. Et Elon Musk s'est proclamé empereur de Mars. Il voulait faire un combat avec Zuckerberg au Colisée. C'était une blague, naturellement. Mais quand Maureen Dowd du New York Times lui a demandé « Quel est ton empereur préféré ? C'est peut-être le richissime Crassus ?» Il a répondu « Non, Crassus n'était pas un empereur. Il était un triumvir. Il connaît l'histoire romaine et aussi Bill Gates, très passionné par Rome antique. »
Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, selon vous, ont trop de pouvoir ?
Oui, ils ne paient pas d'impôts, ils sont vraiment puissants. Le vrai chef de la droite globale n'est pas Trump. Le vrai chef de la droite globale est Elon Musk. Il est plus jeune, plus riche, plus puissant. Et Giorgia Meloni est très proche à lui, ce n'est pas un hasard.
Comment vous jugez la relation entre l'Italie et l'Union européenne aujourd'hui ?
L'Italie a besoin de l'Europe. Meloni n'est pas européenne, pro-européenne, mais elle n'est pas stupide. Elle sait que l'Italie, avec une dette publique de 3 000 milliards d'euros, a besoin de l'Europe. L'Italie ne pouvait pas soutenir une dette comme ça sans la garantie de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire des Allemands. Et pas pour hasard, Giorgia Meloni a soutenu la cause de l'Ukraine, de l'OTAN, de l'Amérique. Il a changé son discours populiste de droite parce qu'il doit se confronter avec la réalité.
En même temps, sur le plan intérieur, ces valeurs ne sont pas forcément celles qui sont prônées par l'Union européenne. Il y a un grand écart qui existe. Est-ce qu'il est tenable ?
C'est vrai, Giorgia Meloni n'est pas fasciste. Il n'est pas antifasciste, il est anti-antifasciste. Par exemple, pour sous la résistance, non, il dit ouais, bon, il y avait aussi des partisans, des maquisards communistes qui ne rêvaient pas la démocratie, la liberté, ils rêvaient une autre dictature, pire, la dictature communiste. Bon, ça, c'est parfait pour la polémique actuelle, mais quand les Italiens ont dû choisir de quel côté être avec Hitler ou contre Hitler, le bon choix, c'était contre Hitler. C'est tout simple, le reconnaître, mais il refuse de le faire. Et en revenant à l'actualité, le problème, c'est que sans l'Europe, l'Italie est plus faible. L'espace politique de l'Italie, exactement comme celui de la France, c'est l'Europe. Et je crois que Marine Le Pen et Giorgia Meloni ne sont pas convaincus. Mais si on veut nous confronter avec la Chine, l'Inde, les États-Unis, les BRICS, il faut être unis. Il n'y a pas d'autre solution.
Aldo Cazzullo, auteur de « Rome, l'Empire infini », un livre paru aux éditions HarperCollins. À la réalisation d'Accent d'Europe, Stéphane Desfossés. L'émission est disponible en podcast sur notre appli Pure Radio et vous pouvez nous écrire à accent au pluriel.europe@rfi.fr. À demain.